Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
C'est vraiment une bombe dans le milieu sportif, puis même de façon générale, une bombe au Québec. Carey Price qui lève la main en disant « j'ai besoin d'aide ». Donc, gardien de but du Canadien qui admet, en fait, c'est sa femme qui en a parlé aussi en disant qu'il avait un souci de santé mentale. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le message qu'il envoie? On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour Sophie. Je veux pas dire que ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est pas une bonne nouvelle en soi, tu sais, quand on est obligé d'arrêter parce qu'on a un problème soit de santé physique ou soit de santé mentale, parce que pour moi, c'est la même catégorie, faut retrouver la santé, puis la santé ça englobe tout ça. Maintenant, c'est assez nouveau, je trouve, dans la sphère publique qu'on entend, entre autres, des hommes dire « là, c'est trop, faut que j'aille faire soigner ma tête ». Et qu'on le dise ouvertement, sa femme le dit ouvertement, elle le nomme « santé mentale ». Et quand on regarde Carey Price, je trouve que on parle souvent de la notion de performance. Et il est dans un sport de performance. Tous ses proches s'entendent pour dire que c'est un grand perfectionniste. Alors, quand on est un perfectionniste, quand on est un gardien de but, on peut imaginer la pression qu'on a sur les épaules, parce que quand ça va bien, on aime bien le gardien de but, mais quand il laisse rentrer des buts, tu sais, on écoutait les séries, puis on disait, voyons, qu'est-ce qu'il y a, Carey, il file pas à soir, tu sais. Ça passait rapidement sur son dos, mais tu sais, lui, il la sent aussi, cette pression-là. Puis j'ai comme l'impression, quand il est revenu sur la glace pour les entraînements, tu sais, il n'est pas resté longtemps non plus. J'ai comme l'impression qu'il s'est rendu compte que, OK, non, j'ai une barrière devant moi, puis il y a un danger si je la vois pas. Tu sais, tous les signaux, d'après moi, étaient allumés que ça n'allait pas.
Oui, puis vaut mieux qu'il le fasse avant qu'après. Oui. Tu sais, c'est mieux qu'il le fasse maintenant qu'en plein milieu des séries ou en plein milieu d'un match, t'imagines. Et c'est assez particulier l'année qu'on vit, parce que je me rappelle, écoute, il y a quelques semaines seulement, toi et moi, on parlait de Jonathan Drouin, qui lui aussi a parlé publiquement. Puis écoute, si on fait le bilan de l'année 2021, il y a eu Simone Biles, il y a eu la joueuse de tennis aussi, Naomi Osaka. On a l'impression que c'est vraiment l'année où des sportifs nous disent « ben j'aime ça recevoir votre attention, j'aime ça l'admiration que vous avez et tout ça, mais vous nous mettez trop de pression sur le dos ».
Ben c'est et en plus là, faut bien s'entendre qu'un athlète là s'en met déjà beaucoup sur le dos, parce que c'est des sports de compétition. Donc ce que tu veux, c'est gagner. Tu sais, c'est pas donner son meilleur là. Quand on est rendu là, c'est qu'on veut gagner. Puis moi, j'ai comme l'impression aussi, dans le cas de Carey Price, c'est quand tu passes aussi proche, puis là j'ai l'impression, je l'ai entendu de bien des gens aussi, quand tu passes aussi proche de la Coupe Stanley, le ressac est fort, parce que tu dis, est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est en partie de ma faute? Tu sais, c'est dur de démêler tout ça et de se rappeler que c'est d'abord un sport d'équipe. Et là, tu sais, moi, ce que je voulais amener aussi comme point aujourd'hui, c'est Carey Price, on le dit, bon, il y a un programme qui est là pour une thérapie. Bon, là, je me demande quel type de thérapie, parce que quand c'est pas une addiction, quand on parle peut-être de dépression dans son cas, en fait, je veux pas lui porter un diagnostic, là, c'est vraiment ce que je pense. Ben, habituellement, c'est pas en thérapie fermée. Fait que des fois, ça peut être quand même, moi, 30 jours, ça m'apparaît très court pour, tu sais, pour reprendre de la santé, mais ça, en même temps, peut-être qu'il va se promener à travers le monde aussi, tu sais, il peut, quand t'es pas en thérapie fermée, il y a quand même une pression, parce que t'essaies de te guérir, mais te guérir en public, quand t'es connu comme Carey Price, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, mais c'est sûr que j'imagine qu'il va être protégé de tout bord, tout côté, pour être dans les meilleures conditions. Mais là où je voulais en venir, Sophie, c'est qu'on connaît du monde, moi j'en connais, tu sais, qui ont fait des burn-out, qui ont fait des dépressions, mais qui n'ont pas de programme,
ben oui,
qui n'ont pas d'assurance.
Ben non, c'est un scandale. C'est le scandale au Québec de santé mentale, c'est que on donne des millions de dollars au système de santé, mais le système de santé n'est pas capable d'offrir le filet dont on a besoin pour la santé mentale. Je comprends pas. On n'en a pas pour notre argent, là.
Et ça, c'est grave. Parce que puis même, tu sais, voir un psychologue, c'est difficile. Voir un psychiatre, on est encore plus difficile. Et c'est vraiment les psychiatres qui vont faire la prescription de médication si tu as besoin d'antidépresseurs. Quand tu as besoin de ce genre de médicaments-là, c'est un psychiatre qui prescrit ça au Québec. Donc, l'accessibilité est très difficile. Même un psychologue, on va souvent dans le privé pour voir un psychologue. Puis des fois, c'est des choix financiers. Tu sais, c'est pas juste les gens, ah, c'est ceux qui ont de l'argent. Non, il y en a là, qui font des choix dans leur budget pour se sauver. Et je pense que le gouvernement doit entendre ces signaux d'alerte-là parce que, tu l'as dit, il faut qu'on resserre notre filet pour la santé mentale parce qu'on n'a pas toute la chance. Parce que, est-ce que c'est une chance que Carey Price a, c'est une chance que Jonathan Drouin avait aussi, c'est d'avoir une assurance qui leur propose des soins adaptés pour la santé mentale. Mais il faudrait que ça, ce soit ouvert à toutes. Parce qu'écoute, quand tu as des problèmes de santé physique, on sait où aller. Problèmes de santé mentale, écoute, c'est pas facile d'avoir accès à ça. Et moi, j'ai vu des gens, là, tu sais, crasher dans leur vie, là, tu sais, pour utiliser un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés, parce que tu as une famille à faire vivre, parce que tu dis, faut que ça continue, je peux pas m'arrêter parce que je vais pas bien dans ma tête, puis en plus, il y a un tabou, puis là, j'espère au moins, tu sais, que des histoires comme ça, on va être capable d'en parler plus librement, puis on va peut-être dire, regarde, si ça arrive à Carey Price, ça peut m'arriver aussi, et tant mieux si on pense comme ça, puis là, en plus, on voit que les hommes craquent aussi, les hommes ont toujours craquer, mais je pense que ça s'est toujours fait dans l'espèce d'anonymat, dans la honte. Ben là, c'est terminé, cette période-là. On n'a pas honte de dire qu'on a des problèmes cardiaques. Ben on ne doit pas avoir plus honte d'avoir des problèmes de santé mentale.
Tout à fait. Donc, alors, il y a la stigmatisation, il y a le fait qu'il y a la difficulté de l'accessibilité, puis tu as mentionné le mot assurance tout à l'heure. Tu as dit, bon, et Carey Price, il y a des assurances et tout ça, donc tout ça est couvert. Mais même dans le milieu des assurances, rappelle-toi, il y a quelques années, en fait, c'était en 2018, l'auteur Samuel Archibald qui avait signé un témoignage, il avait écrit une lettre aux journaux en disant, écoutez, moi, j'ai un problème de santé mentale et ma compagnie d'assurance, pourtant je paye mes primes, tout ça, refuse de me payer une prime d'invalidité. Donc, même au sein des compagnies d'assurance, si tu les appelles en disant, ben, je vais manquer pendant un mois parce que j'ai fait une pancréatite, pas de problème. Je vais manquer pendant un mois parce que il y a des petits bonhommes qui me parlent dans ma tête. Ah, ben là, il va falloir que vous le prouviez, puis c'est-tu vraiment vrai cette affaire-là? Puis comment ça se fait que vous êtes allé au dépanneur l'autre jour, vous avez acheter une pinte de lait si vous êtes si déprimé que ça. Et donc, ça aussi, il faut en parler. Puis ça aussi, il faut le dénoncer.
Puis je me souviens, en début de saison avec toi, on parlait d'une lettre ouverte d'une femme qui est médecin, qui était justement en épuisement, puis elle a reçu une lettre de son assurance pour dire, ben nous, on ne couvre pas ça. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que plus on tarde, plus le corps nous lâche. Puis c'est comme si les assurances vont nous accepter quand le corps va lâcher. Mais le danger de ça, c'est l'étirement des soins. Et c'est difficile à dire, mais il y a des tentatives de suicide. Il y a des gens qui veulent mettre fin à cette souffrance-là un jour. Tu sais, quand on n'a pas d'aide, quand on se sent seul, puis quand on a des problèmes de santé mentale et qu'on se sent seul, la première chose qu'on fait, on s'isole. Puis quand on n'est pas reconnu par personne dans cette souffrance-là, c'est terrible. Alors oui, il y a quelque chose à faire au niveau des compagnies d'assurance, il y a quelque chose à faire au niveau du gouvernement. Augmentons l'accessibilité de ces soins-là. Moi, je vais te dire, Sophie, est-ce qu'on pourrait pas moins abaisser tous les critères de sélection pour rentrer en psychologie, pour rentrer en psychiatrie, parce qu'il y a des critères qui ne sont pas basés sur l'humain. Et moi, je pense que quelqu'un qui veut, même s'il n'a pas tout à fait la bonne cote pour rentrer, mais qui a toutes les facultés humaines pour l'empathie, pour vouloir aider quelqu'un, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des quotas, il faut ouvrir les valves, parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et c'est pas vrai qu'on peut tous aller dans le privé. Et même dans le privé, il y a de l'attente.
Oui, alors, totalement.
C'est très long. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux et peut-être que ça servira à ça. Mais en tout cas, la Angela Price, je trouve qu'elle a été d'une sagesse incroyable de nous écrire ce message-là. Et il n'y a pas de faux fuyants. voici ce qu'il y en est et mon mari a besoin de s'arrêter, mon mari a besoin de soins pour devenir la meilleure personne qu'il est. Et je trouve que c'est un message important qu'elle a livré.
Oui. Écoute, comme à chaque fois qu'on évoque ces questions-là, je pense que c'est important, Marie-Claude, de donner des numéros. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez justement isolé, si vous avez des pensées sombres, il y a des endroits où vous pouvez appeler. Donc, le numéro central, c'est le 1-866-APPEL, APPE2LE, donc le 1-866-277-3553 si vous avez besoin d'aide. Et ils sont ouverts vraiment là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est important. Marie-Claude, tu voulais aussi nous parler. Il y a un texte très intéressant dans la presse de ce matin, une compagnie qui offre à ses employés la semaine de 4 jours. Ça a l'air de tenter pas mal, cette affaire-là. Travailler juste 4 jours par semaine.
Ben, sais-tu, moi, il y a une période de ma vie où j'y croyais pas parce que je me disais, ben, si faut que je fasse 40 heures en 4 jours, de toute façon, je vais finir par travailler une cinquième journée parce que je n'y arriverai pas. Sauf que je trouve que dans le contexte actuel, où on a une pénurie de main-d'œuvre, où on a de la misère à accrocher la nouvelle génération, où on doit leur promettre mer et monde, hein, pour les attirer parce que, bon, ils ont le choix. Je me demande si leur donner du temps, parce que on dirait que je le vois autrement présentement. On est tous en train de courir après notre temps. On vient de parler de dépression. On a aussi des épuisements professionnels parce qu'on est hyper connectés. On en parle souvent de ça.
Oui.
Mais c'est comme si on travaille tout le temps. Quelqu'un nous envoie un courriel pendant notre journée de congé. On est en train de répondre parce que si on répond pas, on va avoir le téléphone, on va avoir le texto parce que ça se peut pas qu'on ne réponde pas. Et ça, je pense que la semaine de 4 jours, c'est une compagnie, Eda Studio, qui est une compagnie de jeux vidéo, il y a 500 personnes et eux autres, ce qu'ils disent, regarde, on va faire l'expérience. Si ça ne marche pas, on va revenir à la semaine de 40 heures, mais on veut l'essayer parce que la moyenne d'âge de nos employés, ils ont 33 ans, ils ont des familles, puis on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une surcharge à tous les niveaux et avec le télétravail, il y a de l'assouplissement qui peut se mettre dans l'horaire. Donc, c'est vraiment un changement de culture, mais je trouve ça intéressant de dire, regarde, on fait une expérience. Fait que dans ce temps-là, on est ouvert aux propositions et ça apporte de la flexibilité. Puis Sophie, je trouve que dans nos vies, on a besoin de flexibilité à un moment donné. Puis à tous les âges, mais imagine quand on a une jeune famille, c'est ça qu'on cherche. Moi, je pense que quelqu'un qui cherche un emploi, oui, le salaire est important, mais les conditions n'ont jamais été aussi importantes, je pense, que maintenant pour les futurs employés.
Et écoute, moi, je trouve que cette génération-là, la génération en dessous de nous, là, plus jeune que nous, elle voit vraiment les choses différemment. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont vu ces gens-là, tu sais, bon, beaucoup, c'est des enfants du divorce, c'est-à-dire que là, ils ont vu leurs parents se séparer, ils ont vu leurs parents, justement, des fois, qui travaillaient trop, qui ne priorisaient pas suffisamment la vie de famille. Puis ce que j'entends beaucoup de cette génération-là, mettons les moins de 30 ans, c'est pas vrai qu'on va refaire cette vie-là. C'est pas vrai que le travail va être au cœur de nos vies. Oui, on s'accomplit par le travail puis on fait plein de choses, mais c'est pas vrai que ça va être juste ça. Et je trouve que dans ce sens-là, ils sont plus sages que nous. Et je pense qu'on a des leçons sûrement à retenir d'eux. Tu sais, je ris souvent aussi de la jeune génération, je les appelle les petits lapins comme Richard, mais je veux dire, il y a des choses quand même qu'on devrait apprendre d'eux, des priorités qu'ils mettent par rapport à leur vie privée puis leur loisir, tu sais, juste avoir du temps pour relaxer, justement pour pas se retrouver en burn-out à 45 ans.
Oui, parce qu'ils ont observé puis ils se disent, regarde, moi, je prends un autre chemin. Alors, peut-être que ça va tous nous faire du bien parce que moi, je trouve que le mal du siècle, au niveau social, c'est beaucoup le manque de temps. On court toujours après notre temps. Et ça, je trouve que c'est une solution. En tout cas, puis moi, je vais les suivre. Moi, je veux savoir qu'est-ce que va donner cette expérience-là. Écoute, ils offrent du soutien psychologique. Ils offrent des conseillers financiers, des conseillers pour trouver un bien-être et l'équilibre, conciliation, travail, famille. Moi, je pense que c'est ça l'avenir et c'est ça que nos jeunes nous demandent présentement pour être disponible à l'emploi et surtout être fidèle. On a besoin de fidélité dans
de loyauté.
De loyauté, absolument.
Mais je te dirais quelque chose, Marie-Claude. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis, bon, tu sais, c'est le mal du siècle, c'est le manque de temps. Mais parle un peu avec les gens autour de toi, les gens qui disent « Ah, j'ai la broue dans le toupette, j'ai jamais de temps pour moi », puis tout ça. Pose-leur la question, tu passes combien de temps par jour devant ta télé? Tu passes combien de temps par jour devant ton ordinateur à regarder des séries? Ah, ben là, tu sais, j'arrive du travail, puis après le souper, je suis là, tu sais... 4 heures, 5 heures par jour. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde nos vies puis qu'on se dise, ben c'est quoi nos priorités? Est-ce que je préfère passer 4 heures à m'avachir en regardant des...
Ah ben moi, oui! Moi, oui!
Oui!
Tu vois, moi, je trouve que je manque de temps pour écouter la télé. Tu bon. Vois, moi, c'est ça. Fait que oui, je sais, il faut s'observer aussi qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Des fois, il faut se mettre en audit, tu sais, faut vraiment s'observer, t'as raison. Mais tu sais, moi...
Les vérifications comptables sont notre temps personnel, c'est bon ben, ça.
Mais ce serait bon pour savoir exactement où on le met. Mais moi, du temps pour la télé, j'en veux, j'aime ça. moi, c'est ça la vie. Quand je suis capable de m'évacher devant ma télé, je me dis, oh yes, c'est ça, c'est toute une semaine.
Mais moi, j'aime ça aussi regarder la télé, mais des fois, je trouve ça ironique, tu sais, des gens qui se plaignent, qui manquent de temps, qui disent, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de... Ouais, mais tu sais, c'est mathématique, là, il y a juste 24 heures dans une journée. Il t'appartient à toi de décider de ce que tu fais avec ces heures-là. Je veux dire, après, plains-toi pas à la fin de la semaine que t'as pas eu le temps de lire ou que t'as pas eu le temps d'aller faire du sport ou que t'as pas eu le temps de ci, là.
Mais tu sais, Sophie, quand on regarde ça, 32 heures efficaces où t'as vraiment une gestion efficace de ton temps dans ton travail, moi, je pense que c'est quand même acceptable dans une vie de dire je travaille 32 heures pour quelqu'un d'autre et quand je suis chez moi, ben on travaille beaucoup aussi chez nous. On a plein de choses. Ben, au lieu de faire le gazon par quelqu'un d'autre, au lieu de, tu sais, puisqu'il y en a que c'est ça, ils font le choix de travailler énormément, mais en même temps, moi, je trouve ça bien agréable de travailler dans ma cour, de faire mes affaires, de cuisiner mes repas, tu sais, de vivre ma maison, de vivre parce que...
De pas tout le temps déléguer, pas tout le temps déléguer.
Ben parce que c'est ça la vie à un moment donné, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Quand tu travailles, tu le fais souvent pour les autres, mais faire des choses pour soi, justement, ça veut pas dire se pogner le derrière pendant tout le reste, mais en même temps, si c'est ça qu'on veut faire, tant mieux, mais il reste que d'avoir du temps qui nous appartient puis de faire ce qu'on en veut, peut-être aller suivre des cours, tu sais, s'améliorer, aller chercher des compétences. Écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du temps, mais je trouve qu'il y a quand même une vision d'avenir et qui va peut-être plaire et surtout, comme je disais, fidélité, loyauté, on en manque et ça en prend dans nos entreprises.
Alors, pour résumer, on s'apprête à vivre un week-end de 3 jours.
Oui!
Alors, je t'annonce qu'après cette émission, je vais prendre mon cellulaire et je vais l'éteindre. Donc, personne, aucun patron, aucun client, personne ne va pouvoir me rejoindre jusqu'à, mettons, lundi midi.
Ben ça, c'est parfait, ça. Non, mais imagine...
Donc, essaye pas de m'appeler, Marie-Claude,
non.
Là. Non. Je vais être incommunicado pendant 3 jours. Hey, je t'embrasse.
Je t'embrasse. Bon week-end.